Radio Kapi.
Oh Kapi.
Le journal Pascal Masirika.
À la une de l'actualité ce midi, déchéance hier à Kinshasa du gouvernement congolais par l'Assemblée nationale. Une déchéance contestée par les députés du FCC et le Premier ministre lui-même. Qu'adviendra-t-il si Ilunga Ilunkamba ne déposait pas sa démission? Tentative de réponse dans ce journal. Au Sud Kivu, le chef de bureau de la MONUSCO met en garde les groupes armés qui se battent dans les hauts plateaux de Fizi et d'Uvira, car Nassoro affirme que tous les massacres et exactions sur les civils ne resteront jamais impunis. Notre invité, c'est le directeur de projet au CICR. Julien Le Sourd affirme qu'il faut 60 millions de dollars américains pour régler la question du manque d'eau potable dans plusieurs quartiers à l'ouest de la ville de Goma. Madame, messieurs, bonjour. Le gouvernement Sylvestre Ilunga Ilunkamba a été déchu hier mercredi par l'Assemblée nationale. Une déchéance contestée à la fois par les députés du FCC et le Premier ministre lui-même. Les contestataires ne reconnaissent pas au bureau d'âge de l'Assemblée nationale la compétence d'examiner une motion de censure contre le gouvernement et qualifient cette destitution de non-événement. Quelles sont les marges de manœuvre qui s'offrent au Premier ministre et Kadhi? Viendra-t-il si Sylvestre Ilunga Ilunkamba ne déposait pas sa démission au gouvernement? Tentative de réponse avec vous, Michel Kifindangoy.
À la lumière des prescrits de la Constitution, l'article 147 y dispose « Lorsque l'Assemblée nationale adopte une motion de censure, le gouvernement est réputé démissionnaire. Dans ce cas, le Premier ministre remet la démission du gouvernement au président de la République dans les 24 heures. » Si le Premier ministre n'est pas d'accord comme c'est le cas, il peut refuser de démissionner, ce qui va plonger le pays dans une crise entre l'Assemblée nationale et le gouvernement. Dans un tel cas de figure, toutes les possibilités sont offertes au président de la République, garant du bon fonctionnement des institutions. Félix Tshisekedi peut donc nommer un nouveau formateur du gouvernement, issu de la nouvelle majorité en vertu de l'article 78. Mais il peut également prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale, conformément à l'article 148 de la Constitution. Dans tous les cas, le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba est libre de saisir la Cour constitutionnelle, soit pour contrôler en vertu de l'article 160 la constitutionnalité de l'acte de destitution de son gouvernement posé par l'Assemblée nationale, soit pour faire recours en interprétation de la Constitution en vertu de l'article 161 s'il voulait contester la décision qui sera prise par le chef de l'État.
Merci Michel Kifindangoy pour ces précisions. Pour permettre au président de la République de prendre des dispositions conséquentes, même si le Premier ministre ne déposait pas sa démission dans 24 heures, l'Assemblée nationale a adopté au cours de la plénière d'hier mercredi une résolution déclarant la déchéance du gouvernement. Cette résolution sera transmise aujourd'hui jeudi au président de la République, à la Cour constitutionnelle et au gouvernement pour fin utile, explique le président. Président du bureau d'âge de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosokodia, est au micro de Michel Kifindangoy.
En application de l'article 147, alinéa 1er de la Constitution, et de l'article 215, alinéa 1er du règlement intérieur, le gouvernement du Premier ministre Ilunga Ilunkamba Sylvestre est réputé démissionnaire. Le Premier ministre est tenu de remettre la démission de son gouvernement au président de la République dans les 24 heures. Aussi, conformément à l'article 23, alinéa 2.22 du règlement intérieur, l'Assemblée nationale va également adopter une résolution déclarant la déchéance du gouvernement du Premier ministre Ilunga Ilunkamba. Celle-ci sera transmise au président de la République, à la Cour constitutionnelle et au gouvernement.
Que pense la population de la déchéance du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba? Jacques-Yves Moulima a promené le micro de Radio Kapi dans les rues de Kinshasa. Suivez ses différentes réactions.
Par élégance politique, il devrait démissionner.
L'initiative, elle était bonne, mais ce qui nous dérange un peu, c'est que
au lieu de faire une motion de censure, il allait être mieux si on votait plutôt le bureau définitif de l'Assemblée. Parce que là, si nous voyons bien, notre constitution a perdu toute sa valeur.
J'aurais souhaité que le Premier ministre, vu son expérience sur la scène politique, donc tout ce qu'il a fait pour le pays, il pouvait vraiment agir en responsable.
Il devait vraiment être destitué. Ça nous a fait du bien parce que lui, il travaillait pour leur autorité morale. Il ne travaillait pas pour le peuple congolais.
Quant à moi, on devait le laisser un peu de temps, au moins 5 à 6 mois.
Optimement, il n'a pas bien travaillé parce que nous n'avons pas vu quelque chose qui a changé depuis qu'il est Premier ministre jusqu'à ce jour. Le social est toujours ambigu.
C'était une bonne chose pour moi parce que notre pays n'a pas vraiment du tout une bonne stabilité.
Après la destitution du gouvernement Ilunga Ilunkamba, hier, le bureau d'âge de l'Assemblée nationale passe immédiatement au dernier point à l'ordre du jour de cette session extraordinaire, c'est-à-dire l'installation du bureau définitif. Le dépôt des candidatures aux 7 postes à pourvoir a débuté ce jeudi à 10h et ira jusqu'à 18h. Toutes les candidatures sont à déposer au bureau, au cabinet du président du bureau d'âge qui examinera et validera toutes les candidatures demain. Vendredi, l'élection et l'installation proprement dite des membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale est prévue pour mercredi prochain. Fin hier, mercredi à Kinshasa, des consultations pour l'identification de la nouvelle majorité parlementaire. C'est ce qui ressort du cabinet de l'informateur. Modeste Batilukwebo a achevé son travail avec les audiences accordées au regroupement politique Ensemble de Moïse Katumbi et le MLC allié de Jean-Pierre Bemba Gombo. Ces deux regroupements officialisent ainsi leur adhésion à l'Union sacrée pour la nation, initiée par le chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo. Un reportage de Paul Matendo.
Selon Dieudonné Boulengetenge, chef de file de la délégation d'Ensemble pour le changement, son regroupement politique, après concertation, vient d'adhérer à l'Union sacrée. Mais petite mise en garde, ce qui doit être fait doit l'être pour l'intérêt du peuple d'abord.
Nous confirmons ici notre adhésion à cette démarche, mais tout en gardant nos pieds sur terre, que nous assurer que ce qui va être fait ensemble le sera pour le bien-être du peuple congolais.
Pour sa part, le mouvement de libération du Congo et allié de Jean-Pierre Bemba confirme aussi son adhésion avec dans sa poche une brochette de 22 députés nationaux. Mohamed Boulet, qui conduit son groupe, insiste sur les préoccupations des Congolais.
Les cahiers de charges n'avaient pas de conditions, seulement les priorités. Que recherchons-nous? La sécurité, la paix pour le peuple congolais. Des réformes pour qu'il y ait des élections apaisées, qui n'appellent pas de contradictions. L'économie, les finances, les infrastructures et aussi in fine le portrait robot des nouveaux animateurs.
Selon le cabinet de l'informateur, avec ces deux dernières audiences, il ne reste plus que Modeste Batulukwebo présente son rapport au président de la République.
Paul Matendo sur Radio Okapi. Après la condamnation du pasteur Daniel Ngoï Mulunda à 3 ans de prison ferme par le tribunal des grandes instances de Lubumbashi, sa défense crie au scandale et dénonce la manière dont cette sentence a été prise et rendue publique. Pour Maître Mbuyu Luyongola, qui a animé un point de presse mercredi soir, le pasteur a été condamné sans que le pourvoi en cassation ne lui soit accordé alors que tout avait été fait légalement. En outre, pendant que le jugement était attendu ce mercredi selon la promesse du tribunal, c'est nuitamment qu'elle a été prise en l'absence du prévenu lui-même et sa défense. On l'écoute dans cet extrait choisi par Jean Gandou.
C'est seulement en début d'après-midi que nous venons d'avoir la certitude que le tribunal s'est réuni la nuit et a rendu la décision de condamnation de l'évêque Mulunda à 3 ans de prison ferme sans ni l'avoir invité, ni l'avoir vu, ni avoir vu ses conseils. Et on ne connaît même pas l'endroit où le tribunal a siégé. C'est la surprise totale et générale qu'un tribunal de droit écrit professionnel ne puisse pas donner la possibilité à un prévenu d'exercer ses moyens de défense. Qu'il ne puisse pas lui donner la possibilité d'assister à son jugement où il est lui-même condamné. Que le tribunal ne puisse pas donner au collectif de la défense l'accès au dossier. C'est quelle justice si on ne peut pas même pas permettre à un prévenu de savoir quelles sont les raisons pour lesquelles il est condamné. Le prévenu qui a été condamné doit exercer son droit à la cassation. Et nous ne pouvons pas non plus accepter que tout ce que nous avons acquis comme liberté d'expression à travers la Constitution et les lois de la République, à travers notre adhésion à des législations internationales, que tout ça soit coulé à l'eau parce qu'il faut qu'un pasteur soit condamné.
On enchaîne avec le Sud Kivu où la MONUSCO adresse une sévère mise en garde aux groupes armés qui se battent dans les hauts plateaux de Fizi et d'Uvira. Elle se réfère aux récents affrontements qui se déroulent depuis le début de la semaine dans plusieurs localités du groupement de Bijombo. Pour le chef de bureau de la MONUSCO, tous les massacres et exactions sur les civils ne resteront pas impunis. Car Nassoro réaffirme également l'appui de la MONUSCO au gouvernement congolais et au FRDC. À Beni, au Nord Kivu, la délégation de la MONUSCO qui séjourne dans les secteurs de Rouenzori a rencontré hier soir les responsables militaires basés dans la zone. Au menu, la situation sécuritaire qui prévaut dans cette partie de la République démocratique du Congo, vidée de sa population suite aux attaques répétées des rebelles ougandais de l'ADEF. Un reportage de Marc Marofimo rendu ici par Guylaine Kassassia.
Tout a commencé par l'évaluation de la situation sécuritaire de la région depuis les dernières attaques qui ont occasionné les déplacements massifs de la population vers la ville de Beni et ailleurs. Il s'en est suivi l'évaluation des opérations militaires dans la région par les FARDC ainsi que leur partenaire, la brigade d'intervention dite FIB de la MONUSCO. La problématique de la lenteur des communications dans les mécanismes de réponse aux alertes de la population qui semble être à la base de la perte de confiance entre la population, l'armée, la population et les forces de la MONUSCO a été débattu également lors de cette rencontre. Les responsables de l'armée n'ont pas manqué de souligner le fait que certaines mains noires seraient en train d'instrumentaliser les jeunes pour chasser l'armée de la zone ainsi que les éléments de la FIB de la MONUSCO. Cette rencontre s'est terminée par une série de recommandations des part et d'autre. Rappelons que c'est depuis la fin du mois de décembre dernier que les localités du secteur de Rouenzori en territoire de Beni se sont transformées en champs de bataille. Conséquence, au moins 70% de la population a vidé la zone pour trouver refuge dans la cité frontalière de Kassindi, à Beni, dans la chefferie de Bachou et même dans la ville de Butembo et en province de l'Ituri. Beni, Guylaine Kassassia, Radio Okapi.
Autre nouvelle en plus bref, deux hauts responsables du commandement militaire américain pour l'Afrique, AFRICOM, sont arrivés mercredi soir ici à Kinshasa pour une visite de 48 heures. Il s'agit de la directrice chargée du renseignement et de l'adjoint au commandant pour l'engagement civilo-militaire. C'est la première visite des officiels américains depuis l'arrivée du président Joe Biden au pouvoir. Ils vont rencontrer ici à Kinshasa le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, le ministre de la Défense nationale et le chef d'état-major général des FARDC. Cette visite est la conséquence de la reprise de la coopération militaire entre la RDC et les États-Unis d'Amérique. La visite se focalisera sur la professionnalisation, le renforcement des FARDC et les réformes anti-corruption menées par le chef de l'État, Tshisekedi. La délégation va discuter également des efforts visant à améliorer les relations civilo-militaires et le respect des droits de l'homme. Il est également prévu un échange avec la chef de la MONUSCO. Revenons sur l'information du Sud Kivu où la MONUSCO adresse une sévère mise en garde aux groupes armés qui se battent dans les hauts plateaux de Fizi et d'Uvira. Elle se réfère aux récents affrontements qui se déroulent depuis le début de la semaine dans plusieurs localités du groupement de Bijombo. Pour le chef de bureau de la MONUSCO Sud Kivu, tous les massacres et exactions contre les civils ne resteront pas impunis. Car Nassoro réaffirme également l'appui de la MONUSCO au gouvernement congolais et au FRDC. Il est au micro d'Emmanuel Elamejo Kabedi.
Il y a beaucoup de manipulations. Il y a les extrémistes de tous bords qui manipulent les jeunes gens, qui essaient de légitimer leurs actions de violence en oubliant que la loi ne tolère aucune forme de violence. Le seul détenteur légitime d'armes dans ce pays, ce sont les FRDC et la police nationale congolaise. Donc toutes ces personnes qui détiennent des armes sont des hors-la-loi d'office, quelles que soient les raisons dont ils se prévalent. Ils seront tenus pour responsables devant les tribunaux nationaux et internationaux des actes qu'ils sont en train de poser et des souffrances qu'ils sont en train d'infliger à la population civile. Un travail est en train d'être fait avec la justice congolaise. Tous les discours sont en train d'être récupérés, que ce soit sur les médias sociaux, que ce soit les discours faits de tous bords, quelle que soit l'ethnie, tout est en train d'être documenté. Je pense qu'on continue d'avoir le rapport mapping qui est régulièrement cité. Donc le travail de documentation continue. Et ça, c'est un appel que je lance à tous les jeunes qui sont encore dans cette brousse avec les armes et leur dire qu'il est temps d'arrêter et de se retirer de ces groupes armés. Parce que d'une façon ou d'une autre, quel que soit le temps, la justice sévira.
En sport, l'entraîneur Florent Ibengué et trois léopards sur les 12 testés positifs au coronavirus sont désormais négatifs. Ces joueurs sont les milieux de terrain d'Oxa Agikanji, les deux gardiens Matampi Vumilei et Guy-Serge Mukumi. Ils ont pris part à l'entraînement avec le reste du groupe hier mercredi à Douala pour préparer le prochain match comptant pour les quarts de finale du CHAN 2020. Florent Ibengué, qui a passé plus de 7 jours de traitement au Cameroun, nous relate ici comment il a vécu cette période de quarantaine.
Calmement, quand vous ne pouvez pas maîtriser certaines choses, vous faites autre chose. J'étais en quarantaine, indépendamment de ma volonté, donc il ne fallait pas essayer de trouver des excuses ou quelque chose comme ça. Il fallait juste l'accepter et puis se soigner et respecter les consignes. Le matin du sport, discussion avec le staff, avec les joueurs, avec les téléphones. Hein. Et après, un visionnage des matchs pour pouvoir anticiper et puis préparation des entraînements avec le groupe. On est dans une ère qui est vraiment différente, difficile. Il faudra qu'on repense la façon d'entraîner, la façon de préparer les matchs et la façon d'organiser les effectifs parce que ça devient vraiment compliqué. On a trois joueurs qui sont sortis ici, mais bien malin qui peut me dire quel groupe j'aurai contre le Cameroun. On ne sait pas si d'autres encore vont être pris. Mais là, les incertitudes augmentent et ça devient un métier vraiment difficile.
Actualité internationale.
L'Allemagne envisage une réduction drastique du trafic aérien avec le Royaume-Uni, le Brésil, l'Afrique du Sud et le Portugal, des pays qu'elle considère comme les plus affectés actuellement par les nouveaux variants du coronavirus. Annonce faite ce jeudi par le ministre de l'Intérieur. Nous nous concentrons sur les zones de mutation du virus pour cette proposition de restriction de voyage, a déclaré le ministre de la Santé à la presse. Et puis Joe Biden veut placer la lutte contre le réchauffement climatique au cœur de sa politique nationale et internationale. Il vient de signer à Washington trois décrets qui visent notamment à s'attaquer à ce qu'il qualifie de menace existentielle. Il a notamment décrété un moratoire sur les forages d'hydrocarbures sur les terres fédérales, encouragé par son prédécesseur.
L'invité.
Il faut au moins 60 millions de dollars américains pour régler la question du manque d'eau potable dans plusieurs quartiers à l'ouest de la ville de Goma, au nord Kivu. C'est ce qui ressort d'une étude qui a été menée par le CICR, dont les résultats ont été présentés dans un atelier qui a réuni pendant 48 heures dans cette ville plusieurs acteurs, dont ceux du gouvernement provincial, la société civile et le corps diplomatique. Le directeur de projet du CICR est notre invité, Julien Lesourd, s'entretient avec Rose Aliza Wadi.
Monsieur Julien Lesourd, bonjour.
Bonjour.
Quel est d'abord l'intérêt de cet atelier ?
Alors en fait, le CICR en 2017-2018 avait fait un schéma directeur sur l'approvisionnement en eau potable des quartiers ouest de Goma. Et l'étude qui vient en fait de compléter ce schéma directeur qui a été fait dans le courant de l'année 2020 concernait les possibilités de financement et les modalités d'exploitation d'un réseau d'eau potable. Donc l'atelier qu'on a organisé visait à présenter différentes conclusions de cette étude aux partenaires et aux acteurs les plus impliqués dans le domaine de l'eau.
Et qu'est-ce qu'on peut retenir des résultats de cette étude ?
Alors, d'une manière générale, mais l'étude l'avait déjà montré au niveau du schéma directeur, il y a des larges parties de Goma qui ne sont pas aujourd'hui desservies par un réseau d'eau potable, que ça pose effectivement des gros problèmes au niveau de la situation sanitaire de la population, ainsi que pour le poids économique de toute la corvée d'eau que ça peut représenter sur les différents ménages, on pourrait dire en Goma en général, mais en particulier sur les secteurs, les quartiers ouest de Goma, qui sont ceux qui ont connu une évolution démographique rapide, la plus récente. L'étude, en fait, aujourd'hui que nous présentions, en fait, n'a pas de conclusion ferme et tranchée. Elle s'est surtout attachée à analyser des possibilités de financement, les modalités économiques aussi pour assurer que un réseau d'eau potable, son exploitation serait financièrement viable, pérenne, pour que le service de l'eau puisse être assuré pendant plusieurs décennies, une fois que des infrastructures seraient réalisées.
Si on prend depuis 2017 que vous réfléchissez, la population de la partie ouest de la ville peut espérer avoir de l'eau?
Alors, effectivement, nous, ce qui est important avec ce projet, c'est d'essayer de mobiliser différents acteurs pour qu'on puisse, notamment au niveau des financements, réaliser les infrastructures qui seraient nécessaires pour compléter cette desserte en eau sur les quartiers ouest. Il faut quand même se rendre compte que rien qu'au niveau de travaux de construction, on parle d'un budget qui est estimé à peu près 25 millions de dollars, simplement pour la construction des infrastructures. Par rapport à ça, il y a aussi eu toute une réflexion sur d'autres mesures qui devraient accompagner la construction proprement dite, notamment pour garantir une exploitation de qualité. On a par exemple dans ces mesures le renforcement des capacités de la province pour la gestion, la planification du développement du patrimoine. On a des mesures qui serviraient à renforcer les exploitants de systèmes d'eau, mais aussi des mesures qui viseraient aussi à impliquer la population. Ce qu'il faut aussi bien comprendre, donc c'est vrai que le projet commence à être conceptualisé, mais qu'aujourd'hui, on continue à attendre des financements.
Et donc, les projets, il est là, mais les fonds ne sont pas disponibles. Là, vous venez d'avancer un montant de 25 millions de dollars juste pour la construction des infrastructures. On peut dire qu'il faut environ combien au total pour la mise en œuvre de ces projets pour desservir les populations de l'ouest de la ville de Goma en eau potable?
Alors là aussi, moi j'ai parlé d'une première tranche de projet. La population de Goma, il faut le voir, grandit très très rapidement. Et donc les infrastructures vont devoir suivre cette croissance démographique exponentielle très rapide. Donc là-dessus, après on peut avoir d'autres séries de projets qui se grefferaient là-dessus pour d'autres quartiers qui aujourd'hui sont faiblement urbanisés, mais qui dans un futur proche vont se développer, etc. Après, nous, le schéma directeur qui avait été fait en 2017 concluait au niveau des investissements totaux qu'il faudrait faire plus de 60 millions de dollars, mais c'est des chiffres qui aujourd'hui demanderont totalement à être réactualisés selon l'évolution de la situation, etc. Nous, la partie dont on souhaite s'occuper aujourd'hui, c'est une première tranche de travaux pour qu'il y ait déjà des infrastructures de production, etc., de base, augmenter le stockage, donc qui est quand même déjà un bon squelette de départ. Mais ça devrait être complété par d'autres choses. C'est pas qu'il ne se passe rien aujourd'hui sur Goma et sur Goma Ouest. Avec les faibles moyens dont on dispose, le CICR, par exemple, est engagé dans des réhabilitations de structures existantes. Donc, par exemple, on a remplacé les pompes de la station Keshero. Cette année, on est en train de mener des travaux pour remplacer une conduite d'eau potable sur la zone de Keshero vers la cathédrale pour que, au moins, ces zones-là puissent avoir un approvisionnement un peu plus fiable. Mais ça ne reste que des mesures un petit peu temporaires et ça ne peut pas compenser les investissements majeurs dont je viens de parler qu'il faudrait réaliser.
Julien Lessourd, merci.
Merci beaucoup.
C'était l'invité de Radio Okapi, Julien Lessourd. Il est le directeur de projet au CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, interrogé par Rosalie Zawadi. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci d'avoir écouté infiniment. Merci à Babel Mpongo Masimango qui a coordonné cette édition placée sous la supervision éditoriale de Pelle Kipela Mondo.